On va donc passer à la deuxième présentation de cette matinée concernant le devenir postnatal des nouveau-nés après transfusion in utero pour aluminisation érythrocytaire. Et nous accueillons, alors sur ma liste j'avais deux oratrices, c'est Barbara Dias. Bienvenue, merci beaucoup.
Donc je me présente, je suis le docteur Barbara Dias. Je veux remercier le comité de m'avoir invité à communiquer aujourd'hui sur le devenir postnatal des nouveau-nés qui ont été transfusés in utero pour une alloimmunisation érythrocytaire. Donc la maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né résulte d'une hémolyse des globules rouges qui commence dès la période fœtale. Elle est médiée par des allo-anticorps maternels dirigés contre les antigènes de groupes sanguins d'origine paternelle. Elle provoque une anémie qui, si elle n'est pas diagnostiquée, peut être sévère et aboutir à une anasarque fœtale jusqu'à la mort fœtale in utero. À la naissance, il existe toujours une anémie, puis un deuxième versant ictérique qui se manifeste surtout après la naissance. La morbimortalité périnatale a beaucoup évolué ces dernières années, notamment par l'introduction des traitements anténataux et de la transfusion in utero, qui est notre sujet aujourd'hui, qui a permis de corriger les anémies sévères et donc de diminuer, en tout cas à la naissance, l'impact de l'anémie chez le nouveau-né. Donc si on compare pour commencer la population d'enfants transfusés in utero et des autres enfants non transfusés in utero qui présentent une maladie rhésus, on voit que malgré les transfusions in utero, ça reste des enfants qui sont des nouveau-nés qui sont malades à la naissance, bien qu'ils nécessitent moins de temps en photothérapie dans les études. Dans la littérature, mais il nécessite toujours beaucoup de transfusions postnatales, malgré le programme transfusionnel in utero. Dans une étude menée en France, donc au CNRHP, sur les indications de transfusion in utero, donc on voit bien que la cause la plus fréquente de transfusion in utero, sont les maladies les alloïmunisations, et notamment médiées par l'anti-RH1 suivi de l'anti-KEL. Nous avons donc mené une étude rétrospective observationnelle entre janvier 2013 jusqu'à décembre 2018 sur une population de fœtus transfusés in utero afin d'essayer de voir si l'anticorps impliqué dans la maladie rhésus avait une influence sur le profil évolutif à la naissance. Donc on a pu inclure 112 nouveau-nés transfusés in utero nés vivants, et on voit déjà sur ce diagramme de flux et sur le petit diagramme que je vous ai rapporté que la grande majorité de la spécificité de l'anticorps est l'anti-RH1 suivi des antiquels puis les autres spécificités. Et on avait deux anti-RH4, un anti-RH3 et un anti-MNS1 qui ont été transfusés in utero. Nous avons défini pour cela la maladie hémolytique néonatale sévère selon un critère composite qui était le suivant. Donc une transfusion simple dans les 72 premières heures de vie et ou une exogénotransfusion dans les 72 premières heures de vie et ou le recours à la perfusion d'immunoglobuline polyvalente. Ceci nous a permis de répondre à la question quel était le profil évolutif selon le type d'anticorps. On a comparé les anti-RH1 avec les anti-KEL1 et dans un second temps une étude de cas témoins afin d'essayer de trouver des facteurs prédictifs de maladies hémolytiques néonatales sévères. Donc ici les caractéristiques des fœtus transfusés. Donc ils ont eu 3 transfusions in utero en médiane avec un programme transfusionnel in utero qui démarre dès 27 semaines d'aménorrhée. pour une hémoglobine fœtale pré-transfusionnelle de 6,6 grammes par décilitre en moyenne. Le terme de naissance était de 36 semaines pour ces fœtus, avec une correction de l'anémie, avec une hémoglobine au cordon à la naissance, donc de 12 grammes par décilitre en médiane. L'anémie était arrêt générative dans 53% des cas. Le taux de bilirubine dans les indications de photothérapie était présent dès la naissance pour 69% des cas. Et 45% des nouveau-nés présentaient une maladie hémolytique néonatale sévère selon les critères présentés précédemment. Et 90% des nouveau-nés ont été transfusés dans la période postnatale. Donc ici, on a comparé le groupe anti-RH1 avec le groupe anti-IKL1. Donc, on voit qu'il n'y a pas de différence entre les deux groupes sur la survenue de la maladie hémolytique néonatale. Toutefois, dans la période anténatale, les anti-IKL1 bénéficient de plus de transfusions in utero, 4 contre 3 dans le groupe anti-RH1, et le programme transfusionnel démarre significativement plus tôt, dès 24 semaines. Il y a donc une anémie plus profonde dans le groupe anti-IKL1, avec 5,5 g par décilitre contre 6,9 g par décilitre. Elle est plus souvent arégénérative. Par contre, la bilirubine est plus importante dans le groupe anti-RH1 du fait du mécanisme des anticorps. Pour rappel, l'anti-RH1 résulte d'une hémolyse extravasculaire, alors que les anti-IKL1 procèdent à un immunoblocage des progéniteurs. Le programme transfusionnel donc corrige dans les deux cas l'anémie. Par contre, la bilirubine totale reste plus élevée dans le groupe anti-RH1 avec la nécessité de les laisser sous photothérapie un petit peu plus longtemps. À partir de la première semaine, on voit que le nombre de transfusions est plus important dans le groupe anti-RH1 et ils sont transfusés donc plus longtemps et plus fréquemment. Dans la littérature, Rath et Hall ont également étudié ces deux groupes sur une population de fœtus transfusés et non transfusés in utero. Ils ont réussi à montrer que le groupe anti-IKL1 avait besoin de plus de transfusions in utero. Par contre, le groupe anti-RHD présentait une bilirubine plus élevée dès la naissance, de manière significative, et donc une mise sous photothérapie et le recours aux exsanguinotransfusions plus importante et plus fréquente dans le groupe anti-RHD. Pour la population transfusés in utero, on retrouve exactement la même chose que dans l'étude menée à Trousseau. Le groupe anti-RHD nécessite le recours à des transfusions sanguines simples de manière plus fréquente par rapport aux anti-IKL. En 2019, dans une étude menée à Lille, toujours les mêmes constatations, le groupe anti-RHD présente un taux de bilirubine significativement plus important à la naissance, avec le recours aux exsanguinotransfusions plus important dans ce groupe par rapport aux anti-IKL et évidemment le recours à la photothérapie de manière plus longue par rapport aux anti-IKL. Ensuite, donc, dans un second temps, on s'est intéressé aux facteurs prédictifs anténataux, surtout de la maladie hémolytique néonatale sévère, afin d'essayer d'anticiper les traitements pour ces enfants. Donc, il n'y a pas d'influence dans notre étude du type, de la spécificité de l'allant anticorps. Par contre, parmi tous les critères testés, on voit qu'une réticulocytose lors de la première transfusion sanguine plus élevée semble prédicteur d'une maladie plus sévère à la naissance, probablement signant une maladie bien plus active par rapport au groupe non sévère. À la naissance, on retrouve l'hémoglobine plus basse dans le groupe maladie hémolytique sévère, logiquement, et une bilirubine totale à la naissance en micromol beaucoup plus importante également dans ce groupe sévère. Là, c'était une analyse univariée, pardon. En analyse multivariée, seul le taux de bilirubine totale à la naissance est significatif. Et donc, on ne trouve pas de facteur prédictif anténatal de la maladie sévère néonatale. Et le taux de bilirubine est le seul critère qui reste significatif en faveur de la maladie sévère, témoin d'une hémolyse beaucoup plus importante. D'autres équipes ont essayé de trouver des facteurs prédictifs de maladie sévère. Rhee et Hall ont également étudié sur une population d'enfants transfusés et non transfusés. Donc là, je vous présente les résultats pour les enfants transfusés in utero. Et ils ont évalué le recours aux transfusions postnatales, voir si il y avait des critères anténataux qui permettaient de préjuger du recours des transfusions. Donc ils ont montré que le fait d'avoir une alloïmisation anti-RHD était prédicteur d'un recours aux transfusions sanguines postnatales plus importantes, avec un taux de bilirubine bien plus important également. Donc, les messages importants à retenir sont que c'est une maladie évolutive de la période anténatale et qui évolue jusqu'aux 3 mois de vie. 45% des nouveau-nés présenteront une maladie hémolytique néonatale sévère et 90% vont avoir recours à une transfusion sanguine malgré le programme transfusionnel in utero. Il n'y a pas de facteur de risque anténatal identifié, clairement. Par contre, il semble que l'alloïmisation anti-RH1 est plus sévère que l'alloïmisation anti-KEL dans la période postnatale. Merci de votre attention. J'en profite pour remercier également le docteur Corté et le docteur Franchinard pour leur aide dans ce travail et le docteur Maisonneuve pour son analyse statistique.